Jazz. Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV.
On est tellement content d'être avec vous et on est content que vous soyez là, Boulevard 101, pour l'émission On en jase, son résumé parfait de l'actualité de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. N'hésitez jamais à donner votre opinion. 418-971-1021 par texto. On parle d'impudabilité du côté des gens responsables, de nos gestionnaires qui sont parfois incompétents, comme Gilles Laulier avec le traitement des eaux. Venez nous voir sur twitch.tv/BLVD/FM et surtout télécharger notre application BLVD 101 sur App Store, Google Play Store. C'est la meilleure façon de nous écouter. Avant de parler laïcité, signes religieux, des sujets qui ne laissent personne indifférent, Pascal, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'actualité?
L'interdiction par effraction dans le secteur de Charlebourg, eh bien, deux suspects qui ont été arrêtés. Là, je vous parle des suspects qui étaient de façon importante recherchés récemment parce que dans la nuit dernière, il y a eu un immeuble commercial du boulevard de l'Atrium qui a été vandalisé et volé. Mais un des deux individus qui a été arrêté, mais a été transporté dans un centre hospitalier. Il avait des blessures. Le salut nazi à l'hôtel de ville de Québec coûte actuellement 52 400 $ pour la défense de Bruno Marchand. Ça, c'est dans le dossier de Vicky Lépine. C'est un mandat qui a été confié par la Ville de Québec à la firme d'avocats BCF. Sinon, Hillary Clinton, qui témoignait à huis clos aujourd'hui du côté des États-Unis, demande que Donald Trump ait la même opportunité, disons-le comme ça, qu'elle, d'aller témoigner sous serment. Donc, c'est dans la commission d'enquête sur l'affaire Epstein pour elle. Elle ne comprend pas pourquoi Donald Trump n'est pas entendu. On réclame qu'il le soit sur ses propres liens avec le criminel sexuel. 50 policiers qui sont mobilisés depuis le début de la journée. Il y a une frappe importante contre le BFM à Montmagny. Le RTC veut rendre sa desserte du Vieux-Québec plus efficace, bien sûr en raison des travaux qui s'en viennent et du fait qu'il y aura beaucoup de routes qui seront bloquées, qui seront redirigées. L'autoroute 20 à Lévis, vous savez, il y a eu un accident, collision entre une voiture qui était à contresens et une ambulance dans les dernières heures. Et là, il y a un mort et deux ambulanciers blessés dans cette collision frontale.
Soyez prudents sur les routes, bien évidemment. Signes religieux, laïcité, à chaque fois qu'on en parle, le 418-971-1021 est inondé de messages. Et on va justement commencer avec ce sujet pour notre chronique. Avec Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal. Vous pouvez l'entendre les mardis et jeudis dans notre émission aux alentours de 13h05-13h10. Rémi, comment vas-tu?
Je vais très bien, vous deux.
Ah, ça va super bien. Rémi, je te propose qu'on commence la chronique en entendant deux montages. Le premier montage, Ruba Gazal et Madoua Nika Cadet. Ruba Gazal de Québec solidaire et Madoua Nika Cadet du Parti libéral du Québec qui déchirent leur chemise parce que on va empêcher les gens d'avoir des signes religieux dans nos écoles, nos enseignants et nos techniciens en service de garde. Et Catherine Gentilcœur et Jean-François Roberge qui expliquent pourquoi cette règle-là est la bonne. On se ramène au 19 mars 2025 que ce projet de loi-là a été adopté. C'est des réactions de ce matin à l'Assemblée nationale.
C'est pas aux élèves du Québec de payer le prix de la mauvaise gestion de nos finances publiques, de la CAQ. Et là, ils ajoutent ça pour dire qu'ils veulent régler le problème de la laïcité. Il n'y en a pas de problème, là. C'est assez.
Cette situation est absolument inacceptable. Le gouvernement, ça fait 8 ans qu'il nous dit que pour eux, l'éducation, c'est la priorité des priorités. Puis ce qu'on voit là, pour le réseau, la grande priorité, bien, c'est la pénurie de main-d'œuvre.
C'est très clair qu'à partir du moment où la loi était déposée, bien, toutes les nouvelles embauches qui allaient avoir lieu allaient devoir se conformer aux nouveaux éléments de la loi.
L'information avait été dûment transmise aux directions générales des centres de services scolaires. Puis je pense que les Québécois s'attendent à ce que les enfants reçoivent des services laïcs.
Rémi, le 19 mars 2025, Jean-François Roberge a fait adopter son projet de loi et il a dit à compter du 1er mars 2026, ça va être fini les signes religieux. Et là, le 27 février, on crie au scandale du côté de Ruba Gazal et Madoua Nika Cadet. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
J'en pense que tu es très bon pour prédire l'avenir parce qu'on est le 26, puis tu dis que le 27, le monde va s'insurger.
Je me suis trompé, ils ont fait ça un jour à l'avance.
Je taquine. Écoute, parmi les gens qu'on vient d'entendre, je pense que Catherine Gentilcœur vise le plus dans le mille, dans la mesure où, premièrement, elle représente un parti d'opposition. C'est bien la preuve que ce n'est pas le projet de la CAQ, comme vient de le dire Ruba Gazal. C'est d'ailleurs un projet, la laïcité, loi 21 et autres tangentes qui fait toujours, près de 10 ans plus tard, parce que la loi 21, on parle de l'année 2019, son adoption, c'est un projet de loi qui fait Pas mal l'unanimité. C'est rare, ça, des affaires qui font l'unanimité, presque l'unanimité, j'en parle, je parle qu'il y a un consensus, excusez-moi, là, mais il y a une majorité de Québécois qui sont derrière ça. Il n'y a pas d'unanimité, effectivement, mais même les libéraux de Pablo Rodriguez disaient que c'était un projet, la loi 21 avait garanti une bonne cohésion sociale. Donc, si ça fait 10 ans et presque que cette loi-là, cette façon de concevoir la laïcité fait l'affaire des Québécois, il va peut-être falloir l'accepter. Mais quand je dis Catherine Gentilcorps, c'est le propos le plus intéressant qu'on vient d'entendre. Au-delà du fait qu'elle représente un parti qui n'est pas le parti qui a proposé cette loi-là, elle vient nous dire quoi? Elle vient nous dire, écoutez, on s'était dit dans la loi que désormais, si vous vouliez enseigner, si vous vouliez occuper certains rôles dans certains environnements de travail, ben, il faudrait vous plier à cette exigence-là. Donc moi, j'invite les gens à regarder vers ceux qui ne se plient pas, plutôt que vers la mesure. Parce que je regrette, mais au début, quand on a commencé à parler de la loi 21, il y avait toutes sortes de communautés religieuses qui s'opposaient. On avait la communauté juive, on avait certaines associations de communautés catholiques, on avait évidemment la communauté musulmane. Et aujourd'hui, qui s'entête à ne pas se plier à la loi? Je ne veux pas faire de stigmatisation, mais j'entends plus les juifs dire ça. J'entends plus vraiment d'associations catholiques dire ça. Donc, à un moment donné, il est là le cœur du problème, c'est qu'il y a certaines personnes dans certaines communautés qui refusent de se plier à une loi qui fait l'affaire des Québécois. Il est là le problème.
Et
Le
Rémi,
problème n'est pas ailleurs.
il y a un autre problème, c'est le laxisme des dirigeants des centres de services scolaires, et je m'explique. Là, on demande, ouais, mais faites la clause grand-père jusqu'au 30 octobre 2025. Pourquoi? Parce que quand on a embauché du nouveau personnel cet automne pour la rentrée scolaire, on a omis de leur mentionner qu'à compter du 1er mars, ce serait la loi pour avoir du personnel. C'est ça qui est arrivé aussi comme problématique.
Oui, ben ça, c'est un bon point que tu apportes. Il y a peut-être eu certaines maladresses. Moi, je ne suis pas cruel, là, si on a effectivement dit à des gens que ça marchait comme ça, puis qu'ils se sont engagés, puis que maintenant on leur dit que ça ne marche plus comme ça. Il y a peut-être moyen d'aménager le tout. Mais le vrai sujet, c'est surtout l'esprit de la loi. Puis est-ce que tout le monde va finir par s'y acclimater? Dans le Québec d'aujourd'hui, la religion est un détail. C'est un fait, ça. Pour la grande majorité des
Oui.
Québécois, c'est un truc qu'on célèbre à la maison, avec des amis, avec la famille, dans des lieux de culte. Il nous arrive certaines fois dans l'année de devoir, je pense par exemple au Ramadan, de devoir peut-être demander des accommodements. Il y a des cas où je pense qu'on ne devrait pas les faire. Je pense aux enfants dans les écoles. Moi, j'ai enseigné dans des écoles, puis il y a des enfants qui ne mangeaient pas. Moi, je ne déplaçais pas mes dates d'examen. Je regrette, là, mais je veux dire, on est au Québec ici, on n'est pas au Maroc, là. Donc, je ne déplaçais pas mes dates d'examen. Mais là, le problème, c'est qu'on a des gens peut-être pour qui c'est plus important la religion qu'un travail. Je lis beaucoup ça là, dans les manchettes des femmes de confession musulmane qui disent « Je dois choisir entre mon travail et ma religion. » Ben non, on ne t'a pas demandé ça. On t'a demandé d'enlever ton signe religieux quand tu arrives au travail. Il y a des gens qui portent des kippas et qui l'enlèvent. Il y a des gens qui portent des croix catholiques et qui l'enlèvent. Tout le monde devrait être capable de faire ce petit sacrifice-là. Et s'il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire, ben, il est là le sujet. C'est pourquoi certaines personnes de certaines communautés ne sont pas prêtes à aller là. Ah, mais ben peut-être qu'effectivement, l'intégration n'est pas un objectif qui a été atteint de la même façon. Peut-être qu'il n'y a pas un véritable désir d'intégration totale au Québec. Hein? C'est peut-être ça aussi.
Mais je pense que c'est la question la plus importante, ça. Pourquoi il y en a qui refusent de se conformer? Puis à partir de ce moment-là, même si certains décident de quitter leur emploi au début pour peut-être manifester, contester cette loi-là, elle ne s'applique pas à un groupe en particulier, tu l'as très bien décrit, elle s'applique à tout le monde. Ils vont avoir besoin de revenir sur le marché du travail de toute manière. Puis j'ai l'impression que les choses vont se placer comme de fait, comme elles devraient se placer. Puis je trouve ça triste qu'on ne puisse pas le dire sans avoir l'air raciste ou sans avoir l'air de manquer de sensibilité dans ce dossier-là. Puis je pense que ce serait la première étape pour pouvoir avoir encore plus de discussions sur comment est-ce qu'on souhaite que ça se passe au pays et qu'on ait une certaine cohésion au niveau de grands enjeux comme, entre autres, celui de la religion que nous-mêmes, on a décidé de frapper à grands coups, deux par quatre, il y a quelques années là-dedans parce qu'il y avait des débordements, puis on changeait, puis on se modernisait.
Mais Pascal, tu vises en plein dans le mille. Je veux dire, moi, honnêtement, ce sujet-là, je préfère ne pas le traiter. On marche sur des œufs, on fait attention à ce qu'on dit, on heurte parfois des gens quand on parle de ça. Sauf que la raison pour laquelle on en parle et qu'on prend à chaque fois le risque de sonner comme raciste, quand on prend la position qu'on semble prendre les trois, en tout cas que moi je prends très fièrement, ben c'est parce qu'il y a des gens qui refusent de se plier à la volonté populaire. À un moment donné, on appelle ça ne pas respecter la loi. Ceux qui s'entêtent à le porter et ceux qui décident de s'en aller, Parce qu'en faisant valoir, tu sais, le chantage émotif, OK, on a, je me demandais de choisir ci, choisir ça, c'est peut-être aussi un peu de notre faute. Je lisais ce matin certaines manchettes, je pense à un article de la presse, là, je vous lis le titre. Des travailleuses du soutien scolaire perdent leur emploi à cause de leur voile.
Ouais, j'ai vu ça.
Non. Mais non, c'est pas ça qui se passe. Le titre de l'article serait un petit peu plus long, mais ça devrait être « Des travailleuses perdent leur emploi » parce que contrairement aux autres employés qui retirent sans problème leur signe religieux, elles tiennent, elles, à le conserver.
Rémi,
un petit peu moins hot comme titre, mais la vérité, elle réside dans ce titre-là.
Rémi, j'aime toujours qu'on parle de ce sujet-là parce qu'au 418-971-1021, on a toujours des textos très intéressants. Ici, j'ai une auditrice ou un auditeur qui nous écrit que c'est faux ce qu'on dit parce que la liberté de religion n'existe plus si on ne peut plus prendre ce droit en considération compte tenu des spécificités de chacun. Je dois me mettre en désaccord avec l'auditeur et l'auditrice parce que la liberté de religion existe. Tu peux la faire à la maison, tu peux la faire dans des temples qui sont réservés à ta religion. C'est juste qu'on te demande qu'en situation d'autorité, lorsque tu travailles pour l'État qui est laïque, tu ne dois pas porter tes signes religieux. Est-ce que j'ai faux?
Ben, je vais quand même spécifier que l'auditeur a un point, même si je me range derrière le tien. Jean-François, c'est-à-dire qu'il y a une interprétation en ce moment du droit à la religion, de la liberté de religion, qui est sujette à un débat. Donc, il y a des gens qui disent que cette liberté-là, elle est sans fin, elle est sans contrainte, elle est sans condition. Puis il y a des gens qui disent non, au contraire. Il y a des droits collectifs aussi qui font en sorte que la liberté de religion ne peut pas entrer par-dessus. Donc, il y a deux interprétations. Moi, je me range plutôt derrière celle voulant que je permets à des gens de vivre leur religion. Je veux dire, je ne demande pas à ce que les gens enlèvent leur voile dans la rue ou leur signe religieux dans la rue. Je ne veux pas rentrer dans les maisons. Je ne veux pas rentrer dans les synagogues, dans les mosquées, dans les églises. Mais dans des lieux comme les écoles, des lieux de pouvoir de l'État, ben moi, j'estime qu'on devrait aller dans un sens qui fait l'affaire de la majorité. C'est jamais inutile de le rappeler.
Rémi, on passe au deuxième sujet qui est le taux de natalité. Bernard Drainville s'attaque au taux de natalité. Je vais permettre jusqu'à 3 essais de fécondité gratuits pour les gens. Est-ce qu'à chaque fois qu'on parle du taux de natalité, on met le pied dans un panier de crabes parce qu'on va se faire dire qu'on n'est pas pour que les femmes soient égales à l'homme?
Ben c'est, en tout cas, c'est un risque qu'il prend Bernard Drainville, que je salue, soit dit en passant, parce que c'est un vrai enjeu de société, la natalité. Sans la natalité, il n'y a pas la vie. Hein? Et la vie, c'est mieux que la mort, on est d'accord? Donc, je pense que c'est un vrai sujet politique. Il y a un ministère de la famille. Il y a des politiques publiques qui sont des politiques, sans dire de natalité, mais qui visent à favoriser la natalité. S'il n'y en avait pas, on pourrait véritablement dire que ce n'est pas un enjeu politique, mais c'en est un. Bernard Drainville essaie de réussir là où Lucien Bouchard n'a pas réussi. On se rappelle, Lucien Bouchard, dans les années 90, avait essayé d'en parler. Il s'était fait lancer des tomates. « Hey, le vieux, t'essayes de ramener les femmes au fourneau. » Ben, écoutez, je ne pense pas du tout que c'était son intention. Le taux de natalité du Québec, 25 ans plus tard, est à 1,33. Ce n'est pas suffisant. Le taux, je pense qu'il faudrait atteindre pour qu'il y ait un cycle normal de revitalisation, c'est 2,1, je pense, ou 2, ça serait déjà bien. Donc oui, il y a manière d'en parler, il y a plein de bonnes idées qu'on peut mettre sur la table. Après, j'entends parfois parler de la Hongrie, là, qui, par exemple, je pense aux femmes qui ont 3 enfants, leur disent « vous ne paierez plus jamais d'impôts » ou « on vous paye la voiture de 5 places, la fourgonnette », ça ne semble pas fonctionner parce qu'au fond, une société qui ne fait plus d'enfants, ben, c'est une société qui ne s'aime plus parce que pour faire des enfants, il faut s'aimer, il faut faire l'amour. Hein? Donc, c'est à peine philosophique ce que je lance dans les airs en ce moment. Okay?
J'avoue qu'avec ChatGPT, c'est un peu plus tough, là.
Oui, avec ChatGPT, c'est un peu plus tough, mais je veux dire, les jeunes font moins l'amour qu'avant. Les gens ont des enfants de plus en plus tard. Ça aussi, c'est un cas, puis c'est le cas pour les hommes et les femmes. Moi, autour de moi, des pères de mon âge, il y en a très peu. Parce que l'âge moyen pour un premier enfant chez un homme, je pense que c'est 34 ans au Québec aujourd'hui. Je pense que Bernard Drainville parle de rendre possible là, le transfert d'embryon jusqu'à 45 ans. Donc, c'est parce qu'on tient compte du fait que les femmes ont des enfants très tard. Et quand elles ont un enfant à 40 ans, ben, elles n'en ont pas 2, elles n'en ont certainement pas 3. Elles en ont 1.
Mais il y a beaucoup le coût de la vie, Rémi, qui est par texto en ce moment. Le coût de la vie revient énormément dans les discussions.